Chapitre 16. Les juges, la torture du brodequin, la chapelle. Eh bien, mon pauvre ami, dit Coconas à la Mole lorsque les deux compagnons se retrouvèrent ensemble à la suite de l'interrogatoire où, pour la première fois, il avait été question de la figure de cire, il me semble que tout marche à ravir et que nous ne tarderons pas à être abandonnés des juges. Oui, dit la Mole, il me semble même qu'à cette politesse, à cette facilité des geôliers, à l'élasticité des portes, je reconnais nos nobles amis, mais je ne reconnais pas monsieur de Beaulieu, à ce qu'on m'avait dit du moins. Et je le reconnais, moi, dit Coconas, seulement cela coûtera cher, mais baste, l'une est princesse, l'autre est reine, elles sont riches toutes deux, et jamais elles n'auront occasion de faire un si bon emploi de leur argent. Maintenant, récapitulons bien notre leçon. On nous mène à la chapelle, on nous laisse là sous la garde de notre guichetier. Nous trouvons à l'endroit indiqué chacun un poignard. Je pratique un trou dans le ventre de notre guide. Oh, oh non, pas dans le ventre, tu lui volerais ses 500 écus, dans le bras. Ah oui, dans le bras, ce serait le perdre, pauvre cher homme. On verrait bien qu'il a mis de la complaisance, et moi aussi. Non, non, dans le côté droit, en glissant adroitement le long des côtes, c'est un coup vraisemblable et innocent. Allons, va pour celui-là. Ensuite, tu barricades la grande porte avec des bancs, tandis que nos deux princesses s'élancent de l'hôtel où elles sont cachées, et qu'Henriette ouvre la petite porte. Et puis, dit la Mole avec cette voix frémissante qui passe comme une musique à travers les lèvres, et puis nous gagnons les bois. Un bon baiser donné à chacun de nous nous fait joyeux et fort. Nous vois-tu, Hannibal, penché sur nos chevaux rapides et le cœur doucement oppressé. Ah, la bonne chose que la peur en plein air, lorsqu'on a sa bonne épée nue au flanc, lorsqu'on court, hurrah, au coursier qu'on aiguillonne à l'éperon, et qui, à chaque hurrah, bondit et vole. « Oui, dit Coconas, mais la peur entre quatre murs, qu'en dis-tu, la Mole ? Moi, je puis en parler, car j'ai éprouvé quelque chose comme cela. Quand ce visage blême de Beaulieu est entré pour la première fois dans ma chambre, derrière lui, dans l'ombre, brillaient des pertuisanes et retentissait un sinistre bruit de fer heurté contre du fer. Ah, je te jure que j'ai pensé tout aussitôt au duc d'Alençon et que je m'attendais à voir apparaître sa vilaine face entre les deux vilaines têtes des halbardiers. J'ai été trompé, et ce fut ma seule consolation, mais je n'ai pas tout perdu. La nuit venue, j'en ai rêvé. Ainsi, dit la Mole, qui suivait sa pensée souriante sans accompagner son ami dans les excursions que faisait la sienne au champ du fantastique, ainsi elles ont tout prévu, même le lieu de notre retraite. Nous allons en Lorraine, cher ami. En vérité, j'eusse mieux aimé aller en Navarre, mais en Navarre, j'étais chez elle. La Navarre, c'est trop loin. Nancy vaut mieux. D'ailleurs, là, nous ne serons qu'à 80 lieues de Paris. Sais-tu un regret que j'emporte, Hannibal, en sortant d'ici ? Ah, moi, foi non, par exemple, quant à moi, j'avoue que j'y laisse tous les miens. Eh bien, c'est de ne pouvoir emmener avec nous le digne geôlier au lieu de... Mais il ne voudrait pas, dit Coconas, il y perdrait trop. Songe donc, 500 écus de nous, une récompense du gouvernement, de l'avancement peut-être. Et comme il vivra heureux, ce gaillard-là, quand je l'aurai tué. Mais qu'as-tu donc ?
Rien, une idée qui me passe par l'esprit.
Elle n'est pas drôle à ce qu'il paraît, car tu pâlis affreusement. C'est que je me demande pourquoi on nous emmènerait à la chapelle.
Tiens, dit Coconas, pour faire un opaque.
Mais, dit la Mole, on ne conduit à la chapelle que les condamnés à mort ou les torturés.
Oh, fit Coconas en pâlissant légèrement à son tour.
Et ceci mérite attention. Interrogeons sur ce point le brave homme que je dois éventrer incessamment.
Porte-clé, mon ami!
« Monsieur m'appelle, » dit le geôlier qui faisait le guet sur les premières marches de l'escalier.
« Oui, viens ça.
Me voici.
Eh, il est convenu que c'est de la chapelle que nous nous sauverons, n'est-ce pas ?»«
Chut !» dit le porte-clé en regardant avec effroi autour de lui.
« Eh, sois tranquille, personne ne nous écoute.
»« Oui, monsieur, c'est de la chapelle. »«
On nous y conduira donc à la chapelle. »«
Mais sans doute, c'est l'usage. »«
Et c'est l'usage ?»
Oui, après toute condamnation à mort, c'est l'usage de permettre que le condamné passe la nuit dans la chapelle. Coconas et la Mole tressaillirent et se regardèrent en même temps. Vous croyez que nous serons condamnés à mort ?
Mais sans doute, mais vous aussi, vous le croyez.
Comment, nous aussi ? Dit la Mole.
Certainement, si vous ne le croyez pas, vous n'auriez pas tout préparé pour votre fuite.
Sais-tu que c'est plein de sens ce qu'il dit là ? Fit Coconas à la Mole.
Oui, et ce que je sais aussi, maintenant du moins, c'est que nous jouons gros jeu à ce qu'il paraît.
Et moi donc, dit le guichetier, croyez-vous que je ne risque rien si dans un moment d'émotion, monsieur allait se tromper de côté ?
Et mordi, je voudrais être à ta place, dit lentement Coconas, et ne pas avoir affaire à d'autres mains qu'à cette main et à d'autres fers que celui qui te touchera.
Condamné à mort, murmura la Mole, mais c'est impossible.
Impossible, dit naïvement le guichetier, et pourquoi ?
Chut, dit Coconas, je crois que l'on ouvre la porte d'en bas.
En effet, reprit vivement le geôlier, messieurs, rentrez, rentrez.
Et quand croyez-vous que le jugement ait lieu ? Demanda la Mole.
Demain ou plus tard, mais soyez tranquille, les personnes qui doivent être prévenues le seront.
Alors embrassons-nous et faisons nos adieux à ces murs.
Les deux amis se jetèrent dans les bras l'un de l'autre et retournèrent chacun dans sa chambre.
La Mole soupirait, Coconas chantonnait.
Il ne se passa rien de nouveau jusqu'à 7 heures du soir. La nuit descendit, sombre et pluvieuse, sur le donjon de Vincennes, une vraie nuit d'évasion. On apporta le repas du soir de Coconas, lequel soupa avec son appétit ordinaire, tout en songeant au plaisir qu'il y aurait à être mouillé par cette pluie qui fouettait les murailles, et déjà il se préparait à s'endormir au murmure sourd et monotone du vent, quand il lui sembla que ce vent, qu'il écoutait parfois avec un sentiment de mélancolie qu'il n'avait plus éprouvé avant qu'il fût en prison, sifflait plus étrangement que d'habitude sous toutes les portes, et que le poil ronflait avec plus de rage qu'à l'ordinaire. Ce phénomène avait lieu chaque fois qu'on ouvrait un de ces cachots de l'étage supérieur, et surtout celui d'en face. C'est à ce bruit qu'Annibal reconnaissait toujours que le geôlier allait venir, attendu que ce bruit indiquait qu'il sortait de chez la Mole. Cependant, cette fois, Coconas demeura inutilement, le cou tendu et l'oreille au guet. Le temps s'écoula, personne ne vint.
« C'est étrange, dit Coconas, on a ouvert chez la Mole et on n'ouvre pas chez moi.
La Mole aurait-il appelé, serait-il malade, que veut dire cela ? »
Une demi-heure s'écoula, puis une heure, puis une heure et demie. Coconas commençait à s'endormir de dépit quand le bruit de la serrure le fit bondir.
« Oh !» dit-il, « c'est déjà l'heure du départ, et va-t-on nous conduire à la chapelle sans être condamné ?
Ah, mordi, ce serait un plaisir de fuir par une nuit pareille, il fait noir comme dans un four, pourvu que les chevaux ne soient point aveuglés. »
Il se préparait à questionner gaiement le porte-clés quand il vit celui-ci appliquer son doigt sur ses lèvres et roulant des yeux très éloquents. En effet, derrière le geôlier, on entendait du bruit et l'on apercevait des ombres. Tout à coup, au milieu de l'obscurité, il distingua deux casques sur chacun desquels la chandelle fumeuse envoya une paillette d'or.
« Oh ! » demanda-t-il à mi-voix, « qu'est-ce que donc cet appareil sinistre ? Où allons-nous donc ?»
Le geôlier ne répondit que par un soupir qui ressemblait fort à un gémissement.
« Suivez les halbardiers, monsieur !» dit une voix grasseyante qui fit connaître à Coconas que les soldats qu'il avait entrevus étaient accompagnés d'un huissier quelconque. Il fallait obéir.
Coconas sortit de sa chambre et aperçut l'homme noir dont la voix lui avait été désagréable. C'était un petit greffier bossu et qui sans doute s'était fait homme de robe pour qu'on ne s'aperçût point qu'il était bancal en même temps. Il descendit lentement l'escalier en spirale. Au premier étage, les gardes s'arrêtèrent. La porte s'ouvrit. Coconas avait un regard de lynx et un flair de limier. Il flaira les juges et vit dans l'ombre une silhouette d'homme aux bras nus qui lui fit monter la sueur au front. Il n'en prit pas moins la mine la plus souriante, pencha la tête à gauche selon le code des grands airs à la mode à cette époque et le poing sur la hanche entra dans la salle. On leva une tapisserie et Coconas aperçut effectivement des juges et des greffiers. À quelques pas de ces juges et de ces greffiers, la Mole était assis sur un banc. Coconas fut conduit devant un tribunal. Arrivé en face de ces juges, Coconas s'arrêta, salua la Mole d'un signe de tête et d'un sourire, puis il attendit. Comment vous nommez-vous, monsieur? Lui demanda le président. Marc Annibal de Coconas, répondit le gentilhomme avec une grâce parfaite, comte de Montpentier, Chenaux et autres lieux, mais on connaît nos qualités, je présume. Où êtes-vous né? À Saint-Colomban, près de Suse. Quel âge avez-vous? 27 ans et 3 mois. Maintenant, dit le président, après un moment de silence qui donna au greffier le temps d'écrire les réponses de l'accusé, quel était votre but en quittant la maison de M. d'Alençon? De me réunir à M. de la Mole, mon ami que voilà, et qui, lorsque je le quittais, moi, l'avait déjà quitté depuis quelques jours. Que faisiez-vous à la chasse où vous fûtes arrêté? Mais, répondit Coconas, je chassais. Le roi aussi était à cette chasse, et il y ressentit les premières atteintes du mal dont il souffre en ce moment. Quant à ceci, je n'étais pas près du roi et je ne puis rien dire. J'ignorais même qu'il fût atteint d'un mal quelconque. Les juges se regardèrent avec un sourire d'incrédulité. « Ah, vous l'ignoriez, » dit le président. « Oui, monsieur, j'en suis fâché. Quoique le roi de France ne soit pas mon roi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. « Vraiment ?» Eh, parole d'honneur, ce n'est pas comme pour son frère, le duc d'Alençon, celui-là, je l'avoue. Il ne s'agit point ici du duc d'Alençon, monsieur, mais de sa majesté. Eh bien, je vous ai déjà dit que j'étais son très humble serviteur, répondit Coconas, en se dandinant avec une admirable insolence. Si vous êtes en effet son serviteur, comme vous le prétendez, monsieur, voulez-vous nous dire ce que vous savez d'une certaine statue magique? Ah bon, nous revenons à l'histoire de la statue, à ce qu'il paraît. Oui, monsieur, cela vous déplaît-il? Ah non, point, au contraire, j'aime mieux cela. Allez. Pourquoi cette statue se trouvait-elle chez monsieur de la Mole? Chez monsieur de la Mole, cette statue, chez René, vous voulez dire. Ah, vous reconnaissez donc qu'elle existe? Eh, dame, si on me la montre. La voici, est-ce que vous la connaissez? Très bien. Greffier, dit le président, écrivait que l'accusé reconnaît la statue pour l'avoir vue chez monsieur de la Mole. « Ah, non pas, dit Coconas, ne confondons point, je l'ai vue chez René. Hmm, « Chez René, soit, quel jour ?»« Le seul jour où nous y avons été, monsieur de la Mole et moi. »« Vous avouez donc que vous avez été chez René avec monsieur de la Mole ?»« Ah ça, est-ce que je m'en suis jamais caché ?» Greffier écrivait que l'accusé avoue avoir été chez René pour faire des conjurations. « Oh là, tout beau, monsieur le président, modérez votre enthousiasme, je vous prie, je n'ai pas dit un mot de tout cela. »« Vous niez que vous avez été chez René pour faire des conjurations ?»« Ah, je le nie, la conjuration s'est faite par accident, mais sans préméditation. »« Mais en quel lieu ?» Je ne puis nier qu'il se soit fait quelque chose qui ressemblait à un charme. » Un greffier écrivait que l'accusé avoue qu'il s'est fait chez René un charme contre la vie du roi. Eh, comment, contre la vie du roi? C'est un infâme mensonge. Il ne s'est jamais fait de charme contre la vie du roi. Eh, vous le voyez, messieurs, dit la Mole. Silence, le président. Puis, se retournant vers le greffier, contre la vie du roi, continua-t-il, y êtes-vous? Mais non, dit Coconas. D'ailleurs, la statue n'est pas une statue d'homme, mais de femme. « Eh bien, messieurs, eh, que vous avais-je dit ?» reprit la Mole. « Monsieur de la Mole, dit le président, vous répondrez quand on vous interrogera, mais n'interrompez pas l'interrogatoire des autres. »« Ainsi, vous dites que c'est une femme ?»« Sans doute, je le dis. »« Mais alors pourquoi a-t-elle une couronne et un manteau royal ?»« Pardieu, dit Coconas, c'est bien simple, parce que c'était... » La Mole se leva et mit un doigt sur sa bouche. Ah, « C'est juste, dit Coconas, qu'allais-je donc raconter, moi, comme si cela regardait ces messieurs ?»« Vous persistez à dire que cette statue est une statue de femme ?»« Eh oui, certainement, je persiste. »« Et vous refusez de dire quelle est cette femme ?»« Une femme de mon pays, dit La Mole, que j'aimais et dont je voulais être aimé. »« Ce n'est pas vous qu'on interroge, monsieur de La Mole, s'écria le président. « Taisez-vous donc, ou l'on vous baillonnera. » Bayonnera, dit Coconas, comment vous dites cela, monsieur de la robe noire? On bayonnera mon ami, un gentilhomme? Allons donc. Faites entrer René, dit le procureur général Laguelle. Oui, faites entrer René, dit Coconas, faites, nous allons voir un peu qui a raison ici de vous trois ou de nous deux. René entra, pâle, vieilli, presque méconnaissable pour les deux amis, courbés sous le poids du crime qu'il allait commettre bien plus que de ceux qu'il avait commis. « Maître René, dit le juge, reconnaissez-vous les deux accusés ici présents ?»«
Oui, monsieur, répondit René d'une voix qui trahissait son émotion. « Pour les avoir vus où ?»«
En plusieurs lieux, et notamment chez moi. »
« Combien de fois sont-ils allés chez vous ?»«
Une seule. »
À mesure que René parlait, la figure de Coconas s'épanouissait. Le visage de l'amour, au contraire, demeurait grave, comme s'il avait eu un pressentiment.
« Et à quelle occasion ont-ils été chez vous ?»
René sembla hésiter un moment. « Pour me commander une figure de cire, dit-il.
« Ah, pardon, pardon, maître René, dit Coconas, vous faites une petite erreur. Silence, le président !»
Puis, se retournant vers René, « Cette figure, continua-t-il, est-ce une figure d'homme ou de femme ?»«
D'homme, répondit René. » Coconas bondit comme s'il eût reçu une commotion électrique.
« D'homme, dit-il. »
« D'homme, répéta René, mais d'une voix si faible qu'à peine le président l'entendit-il.
« Et pourquoi cette statue a-t-elle un manteau sur les épaules et une couronne sur la tête ?»«
Parce que cette statue représente un roi. »«
Infâme menteur !» cria Coconas, exaspéré.
« Tais-toi, Coconas, tais-toi !» interrompit la mole. « Laisse dire cet homme, chacun est maître de perdre son âme. »«
Ah, non pas le corps des autres, mordit !»
Et que voulait dire cette aiguille d'acier que la statue avait dans le cœur avec la lettre M écrite sur une petite bannière ?
L'aiguille simulait l'épée ou le poignard, la lettre M veut dire mort.
Coconas fit un mouvement pour étrangler René, quatre gardes le retinrent.
C'est bien, dit le procureur Laguelle, le tribunal est assez renseigné, reconduisez les prisonniers dans les chambres d'attente.
« Mais, s'écriait Coconas, il est impossible de s'entendre accuser de pareilles choses sans protester.
»« Protestez, monsieur, on ne vous en empêche pas. Garde, avez-vous entendu ?»
Les gardes s'emparèrent des deux accusés et les firent sortir. La mole par une porte, Coconas par l'autre. Puis le procureur fit signe à cet homme que Coconas avait aperçu dans l'ombre et lui dit « Ne vous éloignez pas, maître, vous aurez de la besogne cette nuit. »
« Par lequel commencerai-je, monsieur ?» demanda l'homme en mettant respectueusement le bonnet à la main.
« Par celui-ci, » dit le président en montrant la mole qu'on apercevait encore comme une ombre entre les deux gardes. Puis, s'approchant de René, qui était resté debout, tremblant, en attendant son tour, qu'on le reconduisît au châtelet où il était enfermé,
« Eh bien, monsieur, lui dit-il, soyez tranquille, la reine et le roi sauront que c'est à vous qu'ils auront dû de connaître la vérité. »
Mais au lieu de lui rendre la force, cette promesse parut atterrer René, et il ne répondit qu'en poussant un profond soupir. Ce fut seulement lorsqu'on l'eut reconduit dans son nouveau cachot et que l'on eut refermé la porte derrière lui que Coconas, abandonné à lui-même et cessant d'être soutenu par sa lutte avec les juges et par sa colère contre René, commença la série de ses tristes réflexions.
« Il me semble, se dit-il à lui-même, que cela tourne au plus mal et qu'il serait temps d'aller un peu à la chapelle. Je me défie des condamnations à mort, car incontestablement on s'occupe à nous condamner à mort à cette heure. »
Ces mots prononcés à demi-voix furent suivis d'un silence, et ce silence fut interrompu par un bruit sourd, étouffé, lugubre, qui n'avait rien d'humain. Ce cri sembla percer la muraille épaisse et vint vibrer sur le fer de ses barreaux. Coconas frissonna malgré lui, et cependant c'était un homme si brave que chez lui la valeur ressemblait à l'instinct des bêtes féroces. Coconas demeura immobile à l'endroit où il avait entendu la plainte, doutant qu'une pareille plainte pût être prononcée par un être humain. Alors une seconde plainte, plus douloureuse, plus profonde, plus poignante encore que la première, parvint à Coconas, et cette fois non seulement il distingua bien positivement l'expression de la douleur dans la voix humaine, mais encore il crut reconnaître dans cette voix celle de la mole. À cette voix, le piémontais oublia qu'il était retenu par deux portes, par trois grilles et par une muraille épaisse de 12 pieds. Il s'élança de tout son poids contre cette muraille, comme pour la renverser, et voler au secours de la victime en s'écriant « Ah, en égorge donc quelqu'un ici !» Mais il rencontra sur son chemin le mur auquel il n'avait pas pensé, et il tomba froissé du choc contre un banc de pierre sur lequel il s'affaissa. Ce fut tout.
« Ah, ils l'ont tué, murmura-t-il, c'est abominable, mais c'est qu'on ne peut se défendre ici, rien, pas d'armes. »
Il étendit les mains autour de lui. « Ah, cet anneau de fer !» s'écria-t-il. « Je l'arracherai, et malheur à qui m'approchera !» Coconas se releva, saisit l'anneau de fer, et d'une première secousse l'ébranla si violemment qu'il était évident qu'avec deux secousses pareilles, il le décellerait. Mais soudain la porte s'ouvrit, et une lumière produite par deux torches envahit le cachot. « Venez, monsieur !» dit la même voix grasseyante, qui lui avait déjà été si particulièrement désagréable, et qui, pour se faire entendre cette fois à trois étages au-dessous, ne lui parut pas avoir acquis le charme qui lui manquait. « Venez, monsieur, la cour vous attend. »« Bon, dit Coconas, c'est mon arrêt que je vais entendre, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Ah, je respire. »« Marchons, dit-il. » Et il suivit l'huissier, qui marchait devant lui de son pas compassé et tenant sa baguette noire. On entra dans la salle que venaient de quitter les juges et où demeurait seul debout un homme que Coconas reconnut pour le procureur général qui avait plusieurs fois, dans le cours de l'interrogatoire, porté la parole et toujours avec une animosité facile à reconnaître. En effet, c'était celui à qui Catherine, tantôt par lettre, tantôt de vive voix, avait particulièrement recommandé le procès. Un rideau levé laissait voir le fond de cette chambre, et cette chambre, dont les profondeurs se perdaient dans l'obscurité, avait dans ses parties éclairées un aspect si terrible que Coconas sentit que les jambes lui manquaient, et s'écria « Oh mon Dieu !» Ce n'était pas sans cause que Coconas avait poussé ce cri de terreur. Ce spectacle était en effet des plus lugubres. La salle cachée, pendant l'interrogatoire, par ce rideau qui était levé maintenant, apparaissait comme le vestibule de l'enfer. Au premier plan, on voyait un chevalet de bois garni de cordes, de poulies et d'autres accessoires torsionnaires. Plus loin flambait un brasier qui reflétait ses lueurs rougeâtres sur tous les objets environnants et qui assombrissait encore la silhouette de ceux qui se trouvaient entre Coconas et lui. Contre une des colonnes qui soutenait la voûte, un homme immobile comme une statue se tenait debout, une corde à la main. On eût dit qu'il était de la même pierre que la colonne à laquelle il adhérait. Sur les murs, au-dessus des bancs de grès, entre les anneaux de fer, pendaient des chaînes et reluisaient des lames. « Oh !» murmura Coconas, « la salle de la torture, toute préparée, et qui me semble ne plus attendre que le patient, qu'est-ce que cela signifie ?»« À genoux, Marc Hannibal Coconas !» dit une voix qui fit relever la tête du gentilhomme. « À genoux pour entendre l'arrêt qui vient d'être rendu contre vous !» C'était une de ces invitations contre lesquelles toute la personne d'Hannibal réagissait instinctivement. Mais comme elle était en train de réagir, deux hommes appuyèrent leurs mains sur son épaule d'une façon si inattendue et surtout si pesante qu'il tomba les deux genoux sur la dalle. La voix continua. « Arrêt rendu par la cour séant au donjon de Vincennes contre Marc Hannibal de Coconas, atteint et convaincu de crimes de lèse-majesté, de tentatives d'empoisonnement, de sortilèges et de magie contre la personne du roi, du crime de conspiration contre la sûreté de l'État, comme aussi pour avoir entraîné par ses pernicieux conseils un prince de sang à la rébellion. » À chacune de ces imputations, Coconas avait hoché la tête en battant la mesure, comme font les écoliers indociles. Le juge continua. « En conséquence de quoi sera le dit Marc Hannibal de Coconas conduit de la prison à la place Saint-Jean-de-Grève pour y être décapité? Ses biens seront confisqués, ses hautes futaies coupées à la hauteur de 6 pieds, ses châteaux ruinés, et en l'air un poteau planté avec une plaque de cuivre qui constatera le crime et le châtiment. « Pour ma tête, dit Coconas, je crois bien qu'on la tranchera, car elle est en France, et fort aventurée même. Quant à mes bois de hautes futaies, quant à mes châteaux, je défie toutes les scies et toutes les pioches du royaume très chrétien de mordre dedans. « Silence !» fit le juge, et il continua. « De plus, ce sera le dit Coconas. » « Comment ? » interrompit Coconas, « il me sera fait quelque chose encore après la décapitation. Oh, cela me paraît bien sévère. »« Non, monsieur, dit le juge, avant. » Et il reprit, « et il sera de plus le dit Coconas avant l'exécution du jugement, appliqué à la question extraordinaire qui est des 10 coins. »
Coconas bondit, foudroyant le juge d'un regard étincelant. « Et pourquoi faire ? S'écria-t-il, ne trouvant pas d'autre mot de cette naïveté pour exprimer la foule de pensées qui venait de surgir dans son esprit. » En effet, cette torture était pour Coconas le renversement complet de ses espérances. Il ne serait conduit à la chapelle qu'après la torture. Et de cette torture, on mourait souvent. On en mourait d'autant mieux qu'on était plus brave et plus fort, car alors on regardait comme une lâcheté d'avouer. Et tant qu'on n'avouait pas, la torture continuait, et non seulement continuait, mais redoublait de force. « Mordi !» s'écria Coconas, « voilà ce que j'appelle une infamie, voilà ce que j'appelle bien plus qu'une infamie, voilà ce que j'appelle une lâcheté !» Accoutumé aux colères des victimes, colère que la souffrance se calme en les changeant en larmes, le juge impassible ne fit qu'un seul geste. Coconas, saisi par les pieds et par les épaules, fut renversé, emporté, couché et attaché sur le lit de la question, avant d'avoir pu regarder même ceux qui lui faisaient cette violence. « Misérable !» hurlait Coconas, secouant dans le paroxysme de sa fureur le lit et les tréteaux de manière à faire reculer les tourmenteurs eux-mêmes. « Misérable, torturez-moi, brisez-moi, mettez-moi en morceaux, vous ne saurez rien, je vous le jure. Ah, vous croyez que c'est avec des morceaux de bois, avec des morceaux de fer qu'on fait parler un gentilhomme de mon nom? Allez, allez, je vous en défie !»
« Préparez-vous à écrire, greffier, » dit le juge.
« Oui, prépare-toi, » hurla Coconas, « et si tu écris tout ce que je vais vous dire à tous, infâme bourreau, tu auras de l'ouvrage. Écris, écris !»«
Voulez-vous faire des révélations ?» dit le juge de sa même voix calme.
« Rien, pas un mot, allez au diable !»
Vous réfléchirez, monsieur, pendant les préparatifs. Allons, maître, ajuster les bottines à monsieur. À ces mots, l'homme qui était resté debout et immobile jusque-là, les cordes à la main, se détacha de la colonne et d'un pas lent s'approcha de Coconas, qui se retourna de son côté pour lui faire la grimace. C'était maître Caboche, le bourreau de la prévôté de Paris. Un douloureux étonnement se peignit sur les traits de Coconas, qui, au lieu de crier et de s'agiter, demeura immobile et ne pouvant détacher ses yeux du visage de cet ami oublié qui reparaissait en un pareil moment. Caboche, sans qu'un seul muscle de son visage fût agité, sans qu'il parût avoir jamais vu Coconas autre part que sur le chevalet, lui introduisit deux planches entre les jambes, lui plaça deux autres planches pareilles en dehors des jambes et ficela le tout avec la corde qu'il tenait à la main. C'était cet appareil qu'on appelait les brodequins. Pour la question ordinaire, on enfonçait six coins entre les deux planches qui, en s'écartant, broyaient les chairs. Pour la question extraordinaire, on enfonçait 10 coins et alors les planches non seulement broyaient les chairs mais faisaient éclater les os. L'opération préliminaire terminée, maître Caboche introduisit l'extrémité du coin entre les deux planches, puis, son maillet à la main, agenouillé sur un seul genou, il regarda le juge. « Voulez-vous parler ?» demanda celui-ci. « Non, » répondit résolument Coconas, quoiqu'il sentît la sueur perler sur son front et ses cheveux se dresser sur sa tête. « En ce cas, allez, » dit le juge, « premier coin de l'ordinaire. » Caboche leva son bras armé d'un lourd maillet et asséna un coup terrible sur le coin qui rendit un son mat. Le chevalet trembla. Coconas ne laissa point échapper une plainte à ce premier coin qui, d'ordinaire, faisait gémir les plus résolus. Il y eut même plus. La seule expression qui se peignit sur son visage fut celle d'un indicible étonnement. Il regarda avec ses yeux stupéfaits Caboche qui, le bras levé, à demi retourné vers le juge, s'apprêtait à redoubler. « Quelle était votre intention en vous cachant dans la forêt ?» demanda le juge.
« De nous asseoir à l'ombre, » répondit Coconas.
« Allez, » dit le juge.
Caboche appliqua un second coup qui résonna comme le premier.
Mais pas plus qu'au premier coup, Coconas ne sourcilla et son œil continua à regarder le bourreau avec la même expression.
Le juge fronça le sourcil. « Voilà un chrétien bien dur, » murmura-t-il.
« Le coin est-il entré jusqu'au bout, maître ?»
Caboche se baissa comme pour examiner, mais en se baissant, il dit tout bas à Coconas, « Mais criez donc, malheureux !» Puis, se relevant, « Jusqu'au bout, monsieur !» Second coin de l'ordinaire, reprit froidement le juge. Les quatre mots de Caboche expliquaient tout à Coconas. Le digne bourreau venait de rendre à son ami le plus grand service qu'il se puisse rendre de bourreau à gentilhomme. Il lui épargnait plus que la douleur, il lui épargnait la honte des aveux en lui enfonçant entre les jambes des coins de cuir élastique dont la partie supérieure était seulement garnie de bois au lieu de lui enfoncer des coins de chêne. De plus, il lui laissait toute sa force pour faire face à l'échafaud.
« Ah, brave, brave Caboche !» murmura Coconas. « Sois tranquille, va, je vais crier, puisque tu me le demandais. Si tu n'es pas content, tu seras difficile. »
Pendant ce temps, Caboche avait introduit entre les planches l'extrémité d'un coin plus gros encore que le premier. « Allez !» dit le juge. À ce mot, Caboche frappa comme il se fût agi de démolir d'un seul coup le donjon de Vincennes. « Ah, ah ouh !» cria Coconas dans les intonations les plus variées. « Ah !» dit le juge en souriant, « le second fait son effet, cela m'étonnait aussi. » Coconas respira comme un soufflet de forge. « Allez !» dit le juge.
« Avouez !» lui glissa Caboche à l'oreille.
« Et quoi ? Tout ce que vous voudrez, mais avouez quelque chose !»
Et il donna le second coup, non moins bien appliqué que le premier. Coconas pensa s'étrangler à force de crier.
« Hola, hola » dit-il, « que désirez-vous savoir, monsieur ? Par ordre de qui ? J'étais dans le bois ?»«
Oui, monsieur. Eh, j'y étais par ordre de monsieur d'Alençon. » « Écrivez, » dit le juge.
« Si j'ai commis un crime en tendant un piège au roi de Navarre, » continua Coconas, « je n'étais qu'un instrument, monsieur, et j'obéissais à mon maître. »
Le greffier se mit à écrire.
« Oh, tu m'as dénoncé, face blême !» murmura le patient. « Attends, attends !»
Et il raconta la visite de François au roi de Navarre, les entrevues entre Demouy et monsieur d'Alençon, l'histoire du manteau rouge, le tout en hurlant par réminiscence et en se faisant ajouter de temps en temps un coup de marteau. Enfin, il donna tant de renseignements précis, véridiques, incontestables, terribles contre monsieur le duc d'Alençon. Il fit si bien paraître ne les accorder qu'à la violence des douleurs, il grimaça, rugit, se plaignit si naturellement et sur tant d'intonations différentes que le juge lui-même finit par s'effaroucher d'avoir à enregistrer des détails si compromettants pour un fils de France.
« Eh bien, à la bonne heure, se disait Caboche, voici un gentilhomme à qui il n'est pas besoin de dire les choses deux fois et qui fait bonne mesure au greffier. Ah, Jésus Dieu, que serait-ce donc si, au lieu d'être de cuir, les coins étaient de bois ?»
Aussi fit-on grâce à Coconas du dernier coin de l'extraordinaire. Mais sans compter celui-là, il avait eu affaire à 9 autres, ce qui suffisait parfaitement à lui mettre les jambes en bouillie. Le juge fit valoir à Coconas la douceur qu'il lui accordait en faveur de ses aveux et se retira. Le patient resta seul avec Caboche. « Eh bien, lui demanda celui-ci, comment allons-nous, mon gentilhomme ?»«
Ah, mon ami, mon brave ami, mon cher Caboche, » dit Coconas, « sois certain que je te serai reconnaissant toute ma vie de ce que tu viens de faire pour moi. »
« Peste, vous avez raison, monsieur, car si on savait ce que j'ai fait pour vous, c'est moi qui prendrais votre place sur le chevalet, et on ne me ménagerait point, moi, comme je vous ai ménagé. »«
Mais comment as-tu l'ingénieuse idée ?»«
Voilà, » dit Caboche, tout en entortillant les jambes de Coconas dans des linges ensanglantés. « J'ai su que vous étiez arrêté, j'ai su qu'on faisait votre procès. » J'ai su que la reine Catherine voulait votre mort. J'ai deviné qu'on vous donnerait la question et j'ai pris mes précautions en conséquence. Au risque de ce qui pouvait arriver, « Monsieur, » dit Caboche, « vous êtes le seul gentilhomme qui m'ait donné la main et l'on a de la mémoire et un cœur tout bourreau qu'on est, et peut-être même parce qu'on est bourreau. Vous verrez demain comme je ferai proprement ma besogne. »«
Demain ?» dit Coconas.
« Ben, sans doute, demain. »
« Quelle besogne !»
Caboche regarda Coconas avec stupéfaction.
« Comment, quelle besogne ? Avez-vous donc oublié l'arrêt ?»«
Ah oui, en effet, l'arrêt, » dit Coconas, « je l'avais oublié. » Le fait est que Coconas ne l'avait point oublié, mais qu'il n'y pensait pas. Ce à quoi il pensait, c'était à la chapelle, au couteau caché sous la nappe sacrée, à Henriette, à la reine, à la porte de la sacristie et aux 2 chevaux attendant à la lisière de la forêt.
Ce à quoi il pensait, c'était à la liberté, c'était à la course en plein air, c'était à la sécurité au-delà des frontières de France. Maintenant, dit Caboche, il s'agit de vous faire passer adroitement du chevalet sur la litière. N'oubliez pas que pour tout le monde, même pour mes valets, vous avez les jambes brisées et qu'à chaque mouvement, vous devez pousser un cri. « Ah !» fit Coconas, rien qu'en voyant les deux valets approcher de lui la litière. « Allons, allons, un peu de courage, » dit Caboche. « Si vous criez déjà, que direz-vous donc tout à l'heure ?»« Ah, mon cher Caboche, » dit Coconas, « ne me laissez pas toucher, je vous en supplie, par vos estimables acolytes. Peut-être n'aurait-il pas la main aussi légère que vous. »« Posez la litière près du chevalet, » dit maître Caboche. Les deux valets obéirent. Maître Caboche prit Coconas dans ses bras, comme il l'aurait fait d'un enfant, et le déposa couché sur le brancard. Mais malgré toutes ses précautions, Coconas poussa des cris féroces. Le brave guichetier apparut alors avec une lanterne. « À la chapelle, » dit-il. Et les porteurs de Coconas se mirent en route après que Coconas eut donné à Caboche une seconde poignée de main. La première avait trop bien réussi au piémontais pour qu'il fît désormais le difficile. Le lugubre cortège traversa dans le plus profond silence les deux ponts-levis du donjon et la grande cour du château qui mène à la chapelle et aux vitraux de laquelle une pâle lumière colorait les figures livides des apôtres en robe rouge. Coconas aspirait avidement l'air de la nuit, quoique cet air fût tout chargé de pluie. Il lui fallut toute sa volonté, toute sa prudence, toute sa puissance sur lui-même pour ne pas sauter en bas de sa litière. Dès que, porté dans la chapelle, il aperçut dans le chœur et à trois pas de l'autel une masse gisante dans un grand manteau blanc. C'était la Mole. Les deux soldats qui accompagnaient la litière s'étaient arrêtés en dehors de la porte. « Puisqu'on nous fait cette suprême grâce de nous réunir encore une fois, » dit Coconas, alanguissant sa voix, « Portez-moi près de mon ami. » Les porteurs n'avaient aucun ordre contraire, ils ne firent donc aucune difficulté d'accorder la demande de Coconas. La Mole était sombre et pâle, sa tête était appuyée au marbre de la muraille. Sur un signe du porte-clés, les deux valets s'éloignèrent pour aller chercher le prêtre que demanda Coconas. C'était le signal convenu. Coconas les suivait des yeux avec anxiété, mais il n'était pas le seul dont le regard ardent était fixé sur eux. À peine eurent-ils disparu que deux femmes s'élancèrent de derrière l'autel et firent éruption dans le cœur avec des frémissements de joie qui les précédaient, agitant l'air comme le souffle chaud et bruyant qui précède l'orage. Marguerite se précipita vers la Mole et le saisit dans ses bras. La Mole poussa un cri terrible, un de ces cris comme on avait entendu Coconas dans son cachot et qui avait failli le rendre fou. « Mon Dieu, qu'y a-t-il, la Mole ?» dit Marguerite en reculant d'effroi. La Mole poussa un gémissement profond et porta ses mains à ses yeux, comme pour ne pas voir Marguerite. Marguerite fut épouvantée, plus encore de ce silence et de ce geste que du cri de douleur qu'avait poussé la Mole. « Oh !» s'écria-t-elle, « qu'as-tu donc? Tu es tout en sang !» Coconas, qui s'était élancé vers l'autel, qui avait pris le poignard, qui tenait déjà Henriette enlacée, se retourna. « Lève-toi donc, » disait Marguerite, « lève-toi donc, je t'en supplie, tu vois bien que le moment est venu. » Un sourire effrayant de tristesse passa sur les lèvres blêmes de la Mole, qui semblait ne plus devoir sourire. « Chère reine, » dit le jeune homme, « vous aviez compté sans Catherine, et par conséquent sans un crime. J'ai subi la question, mes os sont rompus, tout mon corps n'est plus qu'une plaie, et le mouvement que je fais en ce moment pour appuyer mes lèvres sur votre front me cause des douleurs pires que la mort. » Et en effet, avec effort et tout pâlissant, la Mole appuya ses lèvres sur le front de la reine. « La question ! » s'écria Coconas, « mais moi aussi je l'ai subi, mais le bourreau n'a-t-il pas fait pour toi ce qu'il a fait pour moi ?» Et Coconas raconta tout. « Ah !» dit la Mole, « cela se comprend, tu lui as donné la main le jour de notre visite. Moi, j'ai oublié que tous les hommes sont frères, j'ai fait le dédaigneux, Dieu me punit dans mon orgueil, merci à Dieu. » La Mole joignit les mains. Coconas et les deux femmes échangèrent un regard d'indicible terreur. « Allons, allons !» dit le geôlier, qui avait été jusqu'à la porte pour écouter et qui était revenu. « Allons, ne perdez pas de temps, cher monsieur de Coconas, mon coup de dague, et arrangez-moi cela en digne gentilhomme, car ils vont revenir. » Marguerite s'était agenouillée près de la Mole, pareille à ses figures de marbre courbées sur un tombeau, près du simulacre de celui qui l'enferme. Allons, ami, dit Coconas, du courage, je suis fort, je t'emporterai, je te placerai sur ton cheval, je te tiendrai même devant moi, et si tu ne peux te soutenir sur ta selle, mais partons, partons, tu entends bien ce que nous dit ce brave homme, il y va de ta vie. La mole fit un effort surhumain, un effort sublime. C'est vrai, il s'agit de ta vie, dit-il, et il essaya de se soulever. Hannibal le prit sous les bras, le dressa debout. La mole, pendant ce temps, n'avait fait entendre qu'une espèce de rugissement sourd. Mais au moment où Coconas le lâchait pour aller au guichetier, et lorsque le patient ne fut plus soutenu que par les bras des deux femmes, ses jambes plièrent, et malgré les efforts de Marguerite en larmes, il tomba comme une masse, et le cri déchirant qu'il ne put retenir fit retentir la chapelle d'un écho lugubre qui vibra longtemps sous les voûtes. « Vous voyez, dit la mole, avec un accent de détresse, vous voyez, ma reine, ah, laissez-moi donc, abandonnez-moi avec un dernier adieu de vous. Je n'ai point parlé, Marguerite, votre secret est donc demeuré, enveloppé dans mon amour, et mourra tout entier avec moi. Adieu, ma reine, adieu. » Marguerite, presque inanimée elle-même, entoura de ses bras cette tête charmante et y imprima un baiser presque religieux. « Toi, Hannibal, dit la mole, toi que les douleurs ont épargné, toi qui es jeune encore et qui peux vivre, fuis, fuis, mon ami, donne-moi cette consolation suprême de te savoir en liberté. »« leur passe, dit le geôlier, allez, hâtons-nous. » Henriette essayait d'entraîner doucement Hannibal, tandis que Marguerite, à genoux devant la mole, les cheveux épars et les yeux ruisselants, semblait une madeleine. « Fuis, Hannibal, reprit la mole, fuis, ne donne pas à nos ennemis le joyeux spectacle de la mort de deux innocents. » Coconas repoussa doucement Henriette, qui l'attirait vers la porte, et d'un geste si solennel qu'il en était devenu majestueux, « Madame, dit-il, donnez d'abord les 500 écus que nous avons promis à cet homme. »« Les voici, dit Henriette. » Alors se retournant vers la mole et secouant tristement sa tête, « Quant à toi, mon bon la mole, dit-il, tu me fais injure en pensant un instant que je puisse te quitter. » N'ai-je pas juré de vivre et de mourir avec toi? Mais tu souffres tant, pauvre ami, que je te pardonne. » Et il se recoucha résolument près de son ami, vers lequel il pencha la tête et dont il effleura le front avec ses lèvres. Puis il attira doucement, doucement, comme une mère ferait pour son enfant, la tête de son ami, qui glissa contre la muraille et vint se reposer sur sa poitrine. Marguerite était sombre. Elle avait ramassé le poignard que venait de laisser tomber Coconas. « Oh, ma reine, dit, en étendant les bras vers elle, la mole, qui comprenait sa pensée, « Oh, ma reine, n'oubliez pas que je meurs pour éteindre jusqu'au moindre soupçon de notre amour. » « Mais que puis-je donc faire pour toi ? S'écria Marguerite, désespérée, « si je ne puis même pas mourir avec toi. » « Tu peux faire, dit la mole, tu peux faire que l'amour me soit douce et viendra en quelque sorte à moi avec un visage souriant. » Marguerite s'approcha de lui en joignant les mains comme pour lui dire de parler. « Te rappelles-tu ce soir, Marguerite, où, en échange de ma vie que je t'offrais alors et que je te donne aujourd'hui, tu me fis une promesse sacrée ?» Marguerite tressaillit. « Ah, tu te rappelles, dit la mole, car tu frissonnes. » « Oui, oui, je me la rappelle, dit Marguerite, et sur mon âme, Hyacinthe, cette promesse, je la tiendrai. » Marguerite étendit de sa place la main vers l'autel, comme pour prendre une seconde fois Dieu à témoin de son serment. Le visage de la mole s'éclaira comme si la voûte de la chapelle se fût ouverte et qu'un rayon céleste fût descendu jusqu'à lui. « on vient, dit le geôlier. » Marguerite poussa un cri et se précipita vers la mole, mais la crainte de redoubler ses douleurs l'arrêta tremblante devant lui. Henriette posa ses lèvres sous le front de Coconas et lui dit « Je te comprends, mon Hannibal, et je suis fier de toi. Je sais bien que ton héroïsme te fait mourir, mais je t'aime pour ton héroïsme. Devant Dieu, je t'aimerai toujours avant et plus que toute chose, et ce que Marguerite a juré de faire pour la mole, sans savoir quelle chose cela est, je te jure que... « Pour toi aussi, je le ferai. » Et elle tendit sa main à Marguerite. « C'est bien parlé, cela, merci, » dit Coconas. « Avant de me quitter, ma reine, dit la mole, une dernière grâce. Donnez-moi un souvenir quelconque de vous que je puisse baiser en montant à l'échafaud. »« Oh oui, » s'écria Marguerite, « tiens !» Et elle détacha de son cou un petit reliquaire d'or soutenu par une chaîne du même métal. « Tiens, dit-elle, voici une relique sainte que je porte depuis mon enfance. Ma mère me la passa au cou quand j'étais toute petite et qu'elle m'aimait encore. Elle vient de notre oncle, le pape Clément. Je ne l'ai jamais quittée. Tiens, prends-la. » La molle la prit et la baisa avidement. « On ouvre la porte, dit le geôlier. Fuyez, mesdames, fuyez. » Les deux dames s'élancèrent derrière l'autel où elles disparurent. Au même moment, le prêtre entrait.